C'est le bistrot des ethnologues et vous d'être venu donc pendant ce long week-end de l'Ascension, alors que vous auriez pu être sur les plages, pour venir m'écouter donc parler du post-colonialisme et de ses suites politiques, comme l'a dit Anne Marcellini. Alors je crois que il faut tout d'abord que j'essaye de définir rapidement ce qu'est le post-colonialisme. Alors, le post-colonialisme, en fait, il faudrait parler des post-colonialismes, mais disons que pour simplifier et pour aller vite, parce qu'on peut pas, on dispose pas d'un temps, je ne dispose pas d'un temps infini, je vais essayer de donner une définition assez rapide et lapidaire du post-colonialisme pour que vous ayez une vue plus claire de cette notion. Alors, le postcolonialisme, c'est une théorie, au-delà donc des variantes entre auteurs qui se réclament de ce courant. Donc, c'est une théorie qui tend à analyser et à interpréter la situation actuelle du monde, hein, de l'ensemble du monde, de l'ensemble de la planète, à la fois celle du Sud, hein, de ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, et la situation des ressortissants du Sud dans les pays du Nord, hein, c'est-à-dire les immigrés des banlieues, notamment françaises. Donc, c'est une doctrine qui tend à analyser donc la situation des pays du Sud et de celle de leurs ressortissants résidant au Nord, en référence à deux phénomènes majeurs de l'histoire de l'humanité. Premièrement, la traite atlantique des esclaves en provenance d'Afrique et destinée au Nouveau Monde, aux Amériques, l'Amérique du Nord. Et puis l'Amérique centrale et du Sud. Ça, c'est le premier phénomène. Deuxième phénomène, la colonisation par l'Europe du reste du monde. Ça, c'est les deux phénomènes majeurs qui, pour les auteurs post-coloniaux, dont on dira quelques mots après, ce sont les deux phénomènes majeurs à l'intérieur desquels il faut situer la conjoncture politique et intellectuelle mondiale. Et donc, dans cette mesure, le postcolonialisme est l'héritière des théories de la dépendance des années 1960-1970, qui ont été incarnées par des noms que vous connaissez peut-être. Certains sont oubliés, mais d'autres sont encore peut-être connus de vous. Je veux parler de l'économiste Raoul Prebisch, de Samir Amin, d'André Gunder Frank et de quelqu'un qui est assez connu, peut-être pas tellement en France, mais en tout cas aux États-Unis et un peu partout dans le monde, c'est Emmanuel Wallerstein. Donc, le postcolonialisme est l'héritier des théories de la dépendance, théories qui mettaient l'accent sur les relations entre le centre et la périphérie du système mondial. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait un centre, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis, le Japon, etc., et puis le reste du monde qui constituait la périphérie du système mondial, donc où on se procurait des matières premières et de la main-d'œuvre pas chère. Donc le postcolonialisme, en tant qu'il est l'héritier de ces idées, est donc une théorie géographique qui oppose davantage des continents ou des pays que des classes sociales à l'intérieur de ces pays. Et à cet égard, il repose la question qui avait déjà été posée au sein du marxisme, qui est une théorie qui a été bien oubliée, mais qui est en train de reprendre un peu des couleurs avec la crise économique actuelle. Donc, à cet égard, il repose la question qui avait déjà été posée au sein du marxisme, de savoir si, du fait de l'impérialisme, de la domination de l'Europe sur le reste du monde, les ouvriers des pays développés ne connaissaient pas une amélioration de leurs conditions qui tendait à les embourgeoiser et à les éloigner des sous-prolétaires du Sud, des sous-prolétaires du tiers-monde. Toute une tendance du marxisme, le léninisme, le maoïsme et même le guévarisme, hein, les idées qui ont été incarnées par Che Guevara, toute une tendance du marxisme, donc, a d'ailleurs considéré que la révolution mondiale ne pouvait venir que de la périphérie du système mondial, précisément. Et le postcolonialisme, dans la foulée, conteste donc à l'Europe, on reviendra là-dessus, sa prétention à gouverner le monde au nom des droits de l'homme. Pourquoi ? Parce que, au nom des droits de l'homme, toute une série de forfaits ont été commis par l'Europe, notamment, comme je l'ai dit, les deux phénomènes majeurs que j'ai évoqués à l'instant, la traite esclavagiste et la colonisation. Et donc, pour les auteurs postcoloniaux, et particulièrement l'un des plus connus d'entre eux, en tout cas aux États-Unis, l'historien indien Dipesh Chakrabarty, qui enseigne à l'Université de Chicago, il faut donc, pour les raisons que je viens d'indiquer, provincialiser l'Europe. Provincialiser l'Europe, qui est le titre de son ouvrage, qui est paru en 2000. Provincialiser l'Europe pour en faire une ère culturelle quelconque, et donc continentaliser, culturaliser la pensée. Pourquoi ? Parce que, selon Dipesh Chakrabarty, les Européens, les penseurs européens, ne peuvent prétendre représenter l'universalité de la pensée. Ils ne peuvent pas parler au nom de la totalité de la planète. La pensée européenne, en effet, la pensée des penseurs et des philosophes européens est située, enchâssée dans une culture donnée, la culture européenne, qui, de surcroît, donc, a opprimé l'ensemble de la planète au nom des droits de l'homme, etc. Donc le postcolonialisme débouche tout naturellement sur une sorte de relativisme culturel. Il n'y a plus d'idées valables en tout temps, en tout lieu et pour toute personne. Il n'y a que des vérités situées localement dans le cadre d'espaces géographiques strictement délimités. Chaque culture a le droit de faire valoir ses propres principes et aucune d'entre elles n'a le droit, et en particulier la culture européenne, n'a le droit d'imposer ses propres valeurs aux autres cultures. Les droits de l'homme que l'Europe veut imposer aux autres cultures ne sont, pour les auteurs postcoloniaux, que des justifications, des prétextes pour imposer sa domination au reste du monde. Les idées postcoloniales ne se cantonnent d'ailleurs pas au domaine des strictes idées. Elles ont également un impact au niveau politique. Par exemple, le président du Soudan, Khartoum, Béchir, a été inculpé, comme vous le savez récemment, de crimes contre l'humanité par le Tribunal pénal international à cause précisément des exactions, des méfaits qui ont été commis par son régime au Darfour. On a même utilisé l'expression de génocide à propos de ce qui s'est passé récemment au Darfour. Et donc, le président Béchir a utilisé comme argument pour refuser de répondre à la convocation du tribunal, il a utilisé précisément des arguments de type postcoloniaux, ou de type postcolonial, pardon. En effet, nous dit le président Béchir, au nom de quoi suis-je inculpé par des instances occidentales, le tribunal pénal international, alors que l'Occident se rend coupable de crimes atroces en Palestine, à Gaza notamment, avec les bombardements massifs et la conquête entreprise par l'État d'Israël soutenue par les États-Unis de l'époque, en Irak, en Afghanistan, etc. Et c'est l'idée aussi qui prévalait lors de la conférence des Nations Unies de Durban, en Afrique du Sud, Durban 1. L'idée, c'était que le plus grand criminel de guerre, c'était Israël, qui, soutenu par les États-Unis, écrasait et écrase toujours les Palestiniens. Et donc l'argument des postcoloniaux, qui est repris donc sous une forme politique, comme on l'a vu par le président Béchir, cet argument est du type deux poids, deux mesures. Il y a deux poids, deux mesures selon les acteurs qui sont concernés. On critique le moindre manquement aux droits de l'homme des pays du Sud, mais on se voile la face devant les mêmes crimes commis par le Nord. Donc deux poids, deux mesures. Dans un cas, Les crimes du Sud sont vilipendés, les crimes des pays du Sud sont vilipendés, alors que lorsqu'ils sont commis par le Nord, ils sont exemptés de toute faute. Donc le postcolonialisme, je le disais, est une théorie géographique qui range les bons et les méchants à l'intérieur de certains espaces. Les bons sont au sud, dans l'ancien tiers-monde, les méchants sont au nord. En ce sens, l'idéologie des démocraties. Mais, à contrario, il est vrai, et là j'apporte un peu de l'eau au moulin des idées postcoloniales, il est vrai, selon de mon point de vue, qu'il n'existe pas de différence fondamentale entre ce qu'on appelle les kleptocraties du Sud, hein, le fait que certains régimes politiques de l'hémisphère Sud, les régimes politiques africains, bon, reposent sur la corruption, la prévarication, le détournement des fonds publics, etc. D'un certain point de vue, moi, je pense qu'il n'y a pas de différence de nature entre ces régimes qu'on a pu qualifier comme étant régis, justement, gouvernés par la politique du ventre, hein, le fait que les gens, les dirigeants du Sud s'en mettent plein les poches avant de songer au bien-être de leur population. Je pense qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre ces régimes du Sud, ces kleptocraties, hein, comme on les appelle, et les démocraties occidentales. Je pense qu'il ne faut pas fétichiser les démocraties occidentales, fétichiser la démocratie, en faire un absolu, un standard à l'aune duquel, un étalon à l'aune duquel on jugerait tous les autres régimes politiques, et en particulier les régimes du sud de la planète. Je crois qu'il faut relativiser en particulier la notion de droit, d'état de droit lorsqu'elle est appliquée aux démocraties occidentales, parce qu'on le voit bien, cet état de droit est menacé chaque jour davantage, y compris dans des pays comme la France, de même que la liberté de la presse et les libertés parlementaires. Ici aussi, par exemple, en France notamment, on se sert dans la caisse. Hein, on finance les banques, on finance certaines entreprises, et immédiatement, les dirigeants de ces banques ou de ces entreprises se reversent des bonus ou des primes faramineuses. Donc, il ne faut pas exagérer. Je ne dis pas que tout est pareil et tout se passe de la même façon, quelle que soit la latitude ou les pays concernés, mais je pense qu'il y a des différences de degré que des différences de nature entre les différents régimes politiques selon qu'ils sont situés au nord ou au sud. Enfin, le nord et le sud étant une façon commode d'opposer les choses, puisque le Japon, la Corée, d'autres pays ne sont pas situés au nord, donc ils font partie néanmoins des pays dits développés. Donc, néanmoins, comme toute théorie géographique, le postcolonialisme a ses faiblesses. On l'a dit, le postcolonialisme tente à passer sous silence ou à minorer les divergences d'intérêts entre couches sociales, que ce soit au sud comme au nord, alors que ces couches sociales n'ont pas, l'ensemble des couches sociales, si on prend un pays considéré en particulier, n'ont pas les mêmes intérêts. Et on peut penser au contraire que le fait pour certains régimes du sud d'accuser le nord, de s'en prendre au Nord, hein, de façon incantatoire, permet en fait de détourner l'attention des méfaits commis par ces régimes envers leur propre population et d'asseoir ainsi leur autorité. Deuxièmement, les arguments de type post-colonialiste risquent de renforcer ce que Samuel Huntington, le politologue américain qui est récemment disparu, donc risque de renforcer ce que Samuel Huntington a nommé le choc des civilisations, dont on a beaucoup parlé, et notamment l'affrontement entre l'Occident d'une part et l'islam de l'autre. Ce choc des civilisations, que j'appellerais plutôt pour ma part, je n'aime pas l'expression choc des civilisations, je considère plutôt, en particulier en me référant à l'époque de George W. Bush, Je pense qu'il s'agissait plutôt d'un choc des croisades, hein, le choc de la croisade chrétienne contre la croisade musulmane symbolisée par Al-Qaïda. Donc ce choc des croisades avait été donc largement pratiqué par George W. Bush, mais il n'a pas disparu avec Obama, puisqu'on a pu constater que si Obama projetait donc d'interrompre l'intervention américaine en Irak, c'était pour mieux redéployer ses troupes, les troupes américaines, en Afghanistan. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de changement radical, et je pense qu'on le verra de plus en plus au fur et à mesure que la politique d'Obama sera de plus en plus visible. Troisièmement, le postcolonialisme repose, comme je l'ai dit, sur une conception culturaliste, et donc étant donc à présenter les différentes cultures comme des entités figées, immuables, des monades sans porte ni fenêtre, au sens de Leibniz. Or, il n'y a pas, à proprement parler, de culture européenne, de culture chinoise, de culture indienne, de culture africaine, etc. Et penser en termes de culture au singulier ou de culture au pluriel favorise l'affrontement de ces dites cultures et fait l'impasse, passe sous silence, les échanges, les emprunts, les contacts qui ont toujours existé entre les différentes cultures de la planète. En effet, de mon point de vue, chaque culture est le produit d'héritages multiples. Chaque culture est pour moi un bric-à-brac, de telle sorte qu'un item étranger, entre guillemets, peut être réapproprié, indigénisé et devenir un élément central d'une culture donnée. Donc il n'y a pas de culture au singulier, il n'y a que des cultures, des chaînes de culture ou de sociétés proches ou éloignées, des signifiants globaux qui font l'objet d'une réappropriation, d'une torsion et qui deviennent des signifiés locaux. Et donc, pour terminer sur ce premier point, ce premier volet de mon exposé, je voudrais revenir à la critique que cet historien indien que je mentionnais précédemment, Dipesh Chakrabarty, et de son livre que je traduis par « La provincialisation de l'Europe », qui est un peu l'ouvrage phare du post-colonialisme. Déjà dans le titre, il y a quelque chose de profondément ambigu, puisqu'en fait, pour Dipesh Chakrabarty, pour cet historien indien, il ne s'agit pas tant de provincialiser, son livre aurait pu s'appeler « Provincialiser l'Occident », par exemple, hein, mais en fait, il s'intitule « Provincialiser l'Europe », ce qui veut dire que en dirigeant ses foudres contre le continent européen, il épargne du même coup les États-Unis. C'est-à-dire tous les crimes ont été commis par l'Europe, qui a colonisé le reste du monde, mais quid des crimes qui ont été commis par les États-Unis, il n'en dit pas un mot, et on peut peut-être mettre ça en relation avec le fait que Chakrabarty, qui est d'origine indienne, vit et enseigne aux États-Unis. Et donc on peut se demander si le post-colonialisme n'est pas en fait un post-européanisme, une façon pour les États-Unis d'exercer leur hégémonie sur le reste du monde en utilisant des représentants des cultures autres présents sur leur sol. Vous savez qu'aux États-Unis, beaucoup de centres d'études indiennes, chinoises, africaines, sud-américaines, etc., océaniennes, sont dirigés par des ressortissants de ces pays ou de ces régions du monde, et de sorte que les États-Unis, enfin, on peut se demander si les États-Unis, ce faisant, n'essayent pas de retourner, hein, comme on retourne un espion, les élites des anciennes colonies européennes contre les anciennes puissances européennes, en tout cas en leur donnant les moyens de s'exprimer de cette façon-là. Le deuxième point de mon exposé donc portera sur l'écho de ces idées post-coloniales dans le discours de Dakar, prononcé par Nicolas Sarkozy en juillet 2007, et également c'est l'écho de ces idées chez les critiques de ce discours, ceux qui ont critiqué le discours de Nicolas Sarkozy à Dakar, à savoir Ségolène Royal récemment, Et puis, les auteurs post-coloniaux sur lesquels elle s'appuie. Donc, mon livre, L'Occident décroché, là, qui a été mentionné tout à l'heure par Anne Marcellini, a été écrit avant le discours de Sarkozy prononcé à Dakar en juillet 2007. Même s'il est sorti en janvier 2008, il a été écrit en totalité avant que Sarkozy ait prononcé ce discours déplorable en juillet 2007 à Dakar. Et donc c'est pour cela que ce livre a pu paraître un peu en porte-à-faux par rapport à ce discours, le discours de Sarkozy, qui s'attaquait, s'en prenait frontalement aux Africains. On m'a ainsi reproché de m'en prendre à des cibles secondaires plutôt qu'à des cibles principales. À la droite, on m'a reproché de m'en prendre à la gauche postcoloniale plutôt qu'à la droite réactionnaire. Et on m'a dit notamment qu'il ne fallait pas se tromper d'adversaire. Et ce que je vais dire maintenant donc, prend donc la suite logique de mon livre, et d'une certaine façon, il pourrait en constituer la préface s'il est réédité. En réalité, il y a, je crois, quelque chose de commun, donc, comme je l'ai dit, au discours paternaliste de Nicolas Sarkozy et les discours de ses contradicteurs, qu'il s'agisse donc de Ségolène Royal ou des auteurs postcoloniaux ou postcolonialistes. Et ce quelque chose de commun, comme je vais essayer de le montrer, c'est ce que j'appelle le primitivisme. Le discours proprement scandaleux que Nicolas Sarkozy a prononcé à Dakar en juillet 2007, 2 mois après son élection, et dont on sait qu'il a été rédigé par son conseiller Henri Guénaud, a été copieusement et justement vilipendé. On ne compte plus les articles, les blogs et les ouvrages l'ayant critiqué. Il y a toute une série de livres, d'articles, où sur Internet on peut trouver des tas de textes critiquant vigoureusement et justement d'ailleurs le discours de Sarkozy. Je voudrais revenir là-dessus pour tenter de replacer ce discours dans une série de discours prononcés par Sarkozy à quelques mois d'intervalle, et à l'intérieur duquel ce discours de Dakar prend, selon moi, pleinement sens. En effet, ce discours ne s'est peut-être pas tant adressé aux intellectuels sénégalais, devant lesquels il a été prononcé, qu'à la clientèle électorale de Sarkozy, dont une bonne partie, comme on sait, provient des rangs du Front National. Il s'agissait donc, pour Sarkozy ou pour Henri Guénaud, mais enfin c'est la même chose, puisque Sarkozy a assumé complètement le discours d'Henri Guénaud, il s'agissait donc de rétablir une hiérarchie des races entre l'Europe, le Maghreb, l'Europe d'une part, le Maghreb et l'Afrique noire d'autre part. Je crois qu'en effet, il faut lire ensemble les discours de Sarkozy à Dakar et à Tanger, donc discours qui ont été prononcés à Tanger au Maroc, donc discours qui ont été prononcés à quelques mois d'intervalle. C'est dans les termes d'une antique division entre le Maghreb et l'Afrique noire qu'il faut interpréter ces deux interventions. Cette division est ancienne, elle a commencé avec les Grecs, a été reprise par les Arabes, mais elle a été accentuée sous la colonisation qui a instauré un clivage fondamental entre deux Afriques situées de part et d'autre du Sahara. L'Afrique du Nord, ou le Maghreb, d'une part, et l'Afrique subsaharienne, ou noire, entre guillemets, d'autre part. La première, l'Afrique du Nord, ou le Maghreb, est vue ainsi comme l'héritière de Carthage, des Phéniciens, de l'Empire romain, et de la grande civilisation arabo-musulmane, ou arabo-hispanique, selon l'expression de Sarkozy. C'est l'expression qu'il a utilisée à Dakar. Et donc, cette civilisation relève en tant que civilisation de l'écrit, puisque bon, c'est une au Maghreb et ou en Afrique du Nord, on utilisait bon, peut-être pas sur une grande échelle, mais on utilisait l'écrit. Donc, cette civilisation de l'écrit d'Afrique du Nord ou du Maghreb relève de l'orientalisme, hein, donc d'une étude textuelle. Et elle s'oppose donc à l'autre, l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique noire, qui est située au cœur des ténèbres, pour reprendre l'expression de Joseph Conrad, qui est morcelée en une myriade d'ethnies et dont l'émiettement même, l'émiettement en une kyrielle d'ethnies, en fait la terre d'élection de l'ethnologie. L'Afrique du Nord relève de l'orientalisme, l'Afrique subsaharienne ou noire relève de l'ethnologie. Il existe donc, pour Sarkozy ou pour Henri Guénaud, une communauté de destin entre l'Europe et le nord de l'Afrique, entre l'Europe et le Maghreb, parce que le Maghreb, à la différence de l'Afrique noire, est, lui, véritablement rentré dans l'histoire. Le Maghreb est rentré dans l'histoire, à la différence de l'Afrique noire, qui a refusé le métissage, le Maroc moderne l'a accepté. Et il s'est toujours comporté, c'est pour ça qu'il s'est toujours comporté en protecteur des minorités, celles des Juifs notamment. Alors qu'en Afrique subsaharienne, les missionnaires et les conquérants ont imposé la civilisation occidentale au continent africain, au risque de désenchanter ce continent, d'affadir les cultures de ce continent, de ce sous-continent, au Maroc, la colonisation, qui est symbolisée dans le discours de Sarkozy par la figure de Lyautey, la colonisation a valorisé le patrimoine et la grandeur de la civilisation maghrébine, et s'est contenté, en quelque sorte, d'accompagner le mouvement du pays vers l'indépendance. Donc il n'y a pas de choc de civilisation entre le Maroc et la France, puisque nous, entre guillemets, hein, nous, les Marocains et les Français, nous appartenons au même monde méditerranéen civilisé, celui du miracle grec, celui qui a vu éclore en Grèce ancienne, la raison et la philosophie. La véritable différence, c'est celle qui oppose la France, ou plus largement l'Europe, à l'Afrique noire, à l'Afrique subsaharienne, puisque l'Afrique noire, si elle est d'une part le berceau de l'humanité, c'est là que les premiers hommes ou les premières femmes ont vu le jour, Lucie, etc., et donc, à ce titre, en tant qu'elle est le berceau de l'humanité, elle est également porteuse de toute la sagesse du monde. L'Afrique noire est néanmoins empêchée, ou a été néanmoins empêchée, en raison de son attachement à la tradition, de s'engager pleinement dans la modernité et la globalisation. Le paysan africain répète toujours le même geste. Hein, donc il est empêtré dans la tradition, il est incapable d'évoluer. Alors, donc, mais en même temps, il y a une espèce de saveur des cultures africaines, puisque les cultures africaines ont à apporter à l'Occident fatigué, donc, une sorte de sagesse, une cure de jouvence qui peut régénérer nos cellules fatiguées, de vieux Européens, en bout de course. Donc, il y a un aspect New Age dans le discours de Sarkozy à Dakar. Vous, les Africains, vous connaissez les secrets d'un monde que nous avons perdu, semble-t-il nous dire. Et il passe un coup de chapeau en passant aux arts premiers africains, à l'art nègre, qui a été capable de régénérer l'art occidental fatigué. On l'a vu ça avec Picasso, Derain, Vlaminck, etc. Enfin, vous connaissez la rengaine. Hein. Et également, dans ce discours, il rend hommage à quelqu'un dont vous connaissez sûrement le nom, dont vous avez peut-être oublié la trajectoire, la carrière ou l'œuvre. Il rend un hommage appuyé à Léopold Sédar Senghor, ce qui lui permet de faire d'une pierre deux coups, d'une part de se distinguer de Jacques Chirac, dont l'absence aux obsèques de Senghor avait été remarquée, et d'autre part, de rendre hommage à un personnage éminemment franco-africain. Léopold Sédar Senghor célébrait, en effet, dans son œuvre très prolifique, de poètes, essentiellement. Il célébrait en effet le sens du rythme des cultures africaines. Les cultures africaines ont le sens du rythme. Vous voyez, on est en plein stéréotype. Là, hein, bon. Le sens du rythme des cultures négro-africaines et donc leur spécificité. Mais d'un autre côté, il insistait aussi sur sa propre qualité de métis culturel, s'exprimant en français. Et donc, pour Senghor, la langue française était une langue à vocation universelle, de sorte que le message des Africains, le message que lui-même d'ailleurs diffusait, s'adressait au-delà des sols français à l'humanité tout entière. Senghor, donc, pour Sarkozy, est l'emblème, en quelque sorte, est l'emblème de la France-Afrique, hein, ce que François-Xavier Verschave a dénoncé, là, les liens incestueux entre la France et l'Afrique. Il est l'emblème de la France-Afrique, sur le plan culturel, tout du moins. Il représente, en effet, le trait d'union entre deux ensembles a priori opposés, la France et l'Afrique noire. Mais, comme on va le voir, Senghor représente peut-être également le lien inattendu, involontaire, entre la pensée de Sarkozy et celle de certains auteurs post-coloniaux. Je l'ai déjà dit, le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy a été copieusement et justement vilipendé. Ségolène Royal y est elle-même revenue récemment dans le discours qu'elle a prononcé à Dakar en avril dernier. Discours dans lequel, au cours duquel, elle a demandé pardon aux Africains pour le discours que Sarkozy avait prononcé donc en juillet 2007. Mais au-delà, on peut se demander est-ce qu'il ne convient pas de s'interroger sur l'existence d'une parenté possible entre les positions du président de la République et celles de certains de ses détracteurs. On peut en effet s'étonner de ce retour de Senghor, de Léopold Sédar Senghor, de ce retour à Senghor, qui, indépendamment de l'usage qu'en fait Henri Guénaud ou Nicolas Sarkozy, se manifeste également au sein du milieu intellectuel africain. Et au-delà, dans les propos de Ségolène Royal, puisqu'on sait que le discours de Ségolène Royal a été rédigé par des auteurs, enfin en tout cas un est labellisé vraiment comme postcolonial, les deux autres un peu moins. Enfin, l'autre, enfin le deuxième est un historien africain qui enseigne dans la même institution que moi, et le troisième étant un politologue français. Donc au cours des années, ce qui est frappant, c'est qu'au cours des années 60-70, le président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, et sa doctrine, la négritude, étaient en effet massivement rejetés par le milieu intellectuel africain, qui percevait Senghor comme un serviteur zélé du colonisateur français. On se moquait de lui pour son côté plus normand, parce qu'il avait épousé une Normande, et il passait le plus clair de son temps en Normandie. Donc on se moquait de lui pour son côté plus normand que sénégalais. Senghor était vu comme appartenant à une époque révolue, celle de la 4e République, au cours de laquelle il avait été secrétaire d'État, et on lui préférait des personnages plus en pointe, comme Modibo Keïta, président du Mali, comme Kwame Nkrumah, président du Ghana, ou comme Julius Nyerere, président de la Tanzanie. Or, ce qui s'est passé, c'est que, comme vous le savez, on a assisté à l'échec du ou des socialismes africains, au Ghana, au Mali, en Tanzanie, etc., etc. On a assisté également à la chute du mur de Berlin, et en 89, et à la fin de l'illusion du communisme réel. Et donc, tous ces phénomènes historiques ont redonné une nouvelle jeunesse à des penseurs humanistes, ou à de vieux sages, comme Senghor, prêts à resservir à un Occident fatigué et revenu de tout, les immortelles leçons de la sagesse africaine. C'est pourquoi certains auteurs post-coloniaux, comme Achille Mbembe, où des philosophes comme Souleyman Bachir Diagne, Achille Mbembe est camerounais, hein, il vit en Afrique du Sud. Souleyman Bachir Diagne est un philosophe sénégalais qui vit et enseigne à l'Université Columbia à New York. Et donc c'est pour cela que des gens comme Achille Mbembe ou Souleyman Bachir Diagne ont pu trouver... je signale au passage que Souleyman Bachir Diagne a été conseiller du successeur de Senghor, c'est-à-dire Abdou Diouf. Donc Achille Mbembe et Souleyman Bachir Diagne ont pu trouver dans le poète sénégalais, dans Léopold Sédar Senghor, un ancêtre légitime auquel ils pouvaient s'identifier, sans que cette référence porte les stigmates d'idées ou de théories sulfureuses, comme celle de l'afrocentrisme, par exemple. Car même si est pointée par ailleurs la proximité des idées de Senghor avec celle de Cheikh Anta Diop, qui est le penseur sénégalais qui attribuait une origine africaine à la civilisation égyptienne, donc c'est une idée qui a été fortement contestée, donc même si on peut observer des différences notables entre la pensée de Senghor et celle de Cheikh Anta Diop, il n'en reste pas moins que, même si on peut observer une parenté réelle entre la pensée de ces deux auteurs, il n'en reste pas moins que le premier, c'est Senghor, de par son parcours, agrégé de grammaire, homme politique et académicien français, président du Sénégal, est un auteur plus présentable que Cheikh Anta Diop, qui a fait l'objet d'une forte contestation, comme je l'ai dit, du fait de ses théories sur les origines africaines de la civilisation égyptienne. Il est donc logique que Senghor soit revendiqué, réapproprié, tant par Sarkozy que par Ségolène Royal et par les auteurs post-coloniaux. Mais je crois qu'il faut être attentif au fait que la théorie... les idées de Senghor, et notamment celles qui ont trait au métissage, sont des idées éminemment contestables. Parce que Senghor, lorsqu'il parle de métissage, il met au premier plan les différences entre cultures, qui sont ensuite... dans un deuxième stade, ramener à des positions communes, à des positions universalistes, alors que, me semble-t-il, il faudrait partir de la position inverse, à savoir postuler une universalité première des cultures, non pas que toutes les cultures soient à mettre dans le même sac, mais parce qu'il est préférable de penser une universalité première des cultures, c'est-à-dire rechercher ce qui est d'abord commun entre les différentes cultures, plutôt que de pointer dans un premier temps les différences pour essayer de voir ensuite ce qui est commun aux différentes cultures. Et de ce point de vue, le métissage donc repose chez Senghor sur l'idée qu'il y a au départ des entités pures et entre lesquelles ensuite on peut retrouver des ressemblances. Et je crois que de ce point de vue, ce n'est pas les idées de Senghor ne sont pas une solution au choc des civilisations tel qu'il a été prophétisé par Samuel Huntington, dont on a parlé précédemment. Donc, il me semble que Senghor n'est pas un remède aux maux qui affectent notre époque. Ces idées permettent par ailleurs, et c'est leur autre inconvénient, de célébrer les noces du primitivisme et du post-colonialisme, dont on peut observer les effets néfastes au musée du Quai Branly, par exemple, où les arts premiers... les arts primitifs, l'art tribal, etc., tous les masques, les statues, côtoient les artistes post-coloniaux, ceux qui ont... Donc, où l'art anonyme des sculpteurs africains, océaniens, etc., côtoie des œuvres d'artistes qui ont signé leurs œuvres, enfin, dont la signature figure au bas de leurs œuvres, et de même que ce musée abrite des conférences des auteurs postcoloniaux les plus en vue. Donc il y a une espèce de mélange, là, justement, entre primitivisme et post-colonialisme. Cette rencontre inattendue a l'intérêt aussi de signaler une autre réutilisation que celle de Senghor, c'est celle de Marcel Griaul, l'ethnologue spécialiste des Dogons, qui est également un penseur phare de la génération de Senghor et dont les idées sont très proches du poète sénégalais. Dans leur discours de Dakar, Sarkozy et Guénot rapprochent en effet les Africains intemporels, l'Africain, hein, ils parlent de l'Africain, ils parlent des Africains, mais ils parlent surtout de l'Africain. Donc ils rapprochent les Africains intemporels des Grecs de l'Antiquité, de la même façon que Griol. Ce rapprochement, donc, qui était effectué également par Griol, entre, par exemple, la cosmogonie d'Ogon, hein, Griol parle de la cosmogonie d'Ogon, donc du système mythique et rituel d'Ogon, qu'il rapproche de celui des Grecs d'avant Socrate, hein, la cosmogonie grecque des pré-socratiques. Donc ce rapprochement à travers le temps et l'espace permet à Griol de déshistoriciser les Dogons, hein, de les placer hors de l'histoire, en omettant soigneusement de mentionner l'impact de l'islam sur cette culture. Quand on se promène en pays Dogon, il y a des mosquées partout. Or, dans l'œuvre de Griol, il n'est jamais question de mosquées. Et dans les films de Rouche, de Jean Rouche, que vous connaissez tous, on ne voit jamais de mosquées non plus. Donc c'est hors champ, si vous voulez. Les mosquées sont hors champ, mais ils ont une espèce de purification religieuse de la culture Dogon qui permet d'ériger les Dogons en modèle de primitivité. Et donc, ce qui permet aussi d'attirer les touristes, hein, puisqu'ils sont censés... Les Dogons sont censés être des témoins, des survivants de l'époque antique, en réalité, puisqu'ils sont assimilés aux Grecs présocratiques. Donc vous avez des survivants actuels de l'époque antique. Donc c'est formidable. Donc ceci apparente la démarche de Griol à celle de Senghor, qui n'a pas non plus été en reste pour occulter l'impact de l'islam sur les cultures sénégalaises. Alors que lorsqu'il était président du Sénégal, il a toujours été soutenu par les confréries sénégalaises et en particulier par la confrérie Mouride. Mais il n'est jamais question de l'islam. Dans ses œuvres, on parle de la culture négro-africaine, de la culture berbère, entre laquelle il existe une parenté très forte pour lui. Mais quid de l'islam qui existe en Afrique subsaharienne depuis le Xe siècle? Rien. On retrouve cette optique primitiviste chez les auteurs postcoloniaux actuels, comme l'historien sénégalais Mamadou Diouf, par exemple, qui enseigne également à l'Université Columbia de New York. Donc cet historien prône en effet l'instauration d'une histoire, je cite, d'avant l'État et d'avant l'écriture. Et donc il revendique l'existence de ce que j'appellerais une espèce d'oralité positive. L'oralité, le fait que les cultures africaines aient été définies pendant longtemps sous la colonisation comme des cultures orales, était une façon de les mettre à l'écart de l'histoire, de les rejeter, hein, dans la primitivité, précisément, puisque les civilisations développées, la civilisation européenne notamment, était par excellence la civilisation de l'écrit. Les cultures africaines étaient définies comme essentiellement orales, donc traditionnelles, donc figées dans la répétition du même, et donc c'était une façon de les mettre à l'écart de l'histoire. Et ce qui se passe actuellement avec des gens comme Mamadou Diouf, c'est qu'on retourne le stigmate, hein, pour reprendre l'expression du sociologue américain Erving Goffman, on retourne le stigmate, c'est-à-dire ce qui était conçu comme négatif, comme péjoratif même, et retourner pour en faire quelque chose de positif. Et donc l'oralité chez ces auteurs, chez notamment Diouf, mais on peut en trouver d'autres, devient une qualité des cultures africaines, ce qui montre bien d'ailleurs en passant que la question de l'écriture ou celle de son absence demeure la pierre d'achoppement des rapports entre l'Afrique et l'Occident. Ce n'est pas un hasard si tous les prophétismes africains, tous les prophètes africains ont inventé un système d'écriture. Bon. Et je crois que l'oralité, justement, qu'elle soit vue comme un stigmate, hein, comme quelque chose de négatif dans la tradition coloniale, ou positivée dans la posture postcoloniale, est au fondement du cercle logique de l'aporie postcoloniale, hein, que je définis comme donc un cercle logique, hein, donc dont on ne peut pas sortir, qui intéresse à la fois les nostalgiques de l'Empire, même si celui-ci, l'Empire, a désormais pour nom la francophonie, d'une part, et ceux qui ont intérêt, pour toutes sortes de raisons, à situer les difficultés de communication entre l'Afrique et l'Europe, notamment, ou l'Afrique et l'Occident, dans le cadre d'un affrontement exclusif nord-sud de l'autre. Hein, si on ne peut pas communiquer avec les Africains, nous autres occidentaux, c'est parce que on n'est pas situé dans la même partie du système mondial. Donc si pour Sarkozy et Guénot, l'immobilisme africain, comme je l'ai dit, le paysan africain qui fait toujours le même geste, etc., il manie toujours sa houe de la même façon, il est incapable d'évoluer. Si pour Sarkozy et Guénot, l'immobilisme africain a pour fondement inavoué la non-écriture, on ne saurait trouver dans un retour à une histoire des sociétés africaines d'avant l'État et d'avant l'écriture une solution alternative au paternalisme du gouvernement français. En effet, l'écriture reste l'obsession de l'Afrique et son manque est ressenti comme un défaut majeur de sa cuirasse. Et comme la nature a horreur du vide, ce manque, donc l'absence d'écriture, ne demande qu'à être comblé par toutes sortes d'artifices. Et donc cela peut aller de l'art africain premier, conçu comme substitut de l'écriture ou de la philosophie. Et là, je me réfère au livre de ce philosophe, là, Souleymane Bachir Diagne, sur Senghor, où justement l'art premier africain est vu comme le substitut de l'écriture et de la philosophie, à toutes les formes d'égyptomanie, hein, celles de Cheikh Anta Diop ou de Théophile Obenga notamment. On se trouve de la sorte placé devant un paradoxe. L'Afrique noire est le berceau de l'humanité, comme je l'ai dit, ainsi que l'attestent les découvertes de la paléontologie, et pourtant elle ne cesse de se rechercher des origines à l'extérieur du continent, qu'il s'agisse de Carthage, du Yémen, des Hébreux, de l'Égypte pharaonique, ou des ancêtres plus récents, comme Savornian de Brazza. Par exemple, il y a un monument gigantesque qui est dédié à Savornian de Brazza à Brazzaville, où j'étais récemment, ou d'autres formes, encore. Partout, l'ombre de l'extérieur semble planer sur l'Afrique subsaharienne. Et en réalité, ce qui frappe, c'est que les chantres de la négritude, comme Léopold Sédar Senghor, Damas ou André Césaire, en se réappropriant le terme de nègre, il me semble qu'ils ont joué un bien mauvais tour aux Africains et aux Noirs, entre guillemets, en général. En effet, ils ont contraint les Africains ou les Noirs à se revendiquer comme nègres, et ce faisant à revendiquer un piège identitaire qui les maintient, qu'ils le veuillent ou non, dans un cercle logique postcolonial. Le refoulement postcolonial du cœur des ténèbres africains dans la noirceur, l'obligation faite aux Africains subsahariens et aux Antillais de se définir comme noirs et corrélativement aux Maghrébins de se définir comme blancs, alors qu'il y a des Noirs en Afrique du Nord et des Blancs en Afrique subsaharienne, a obligé en effet ceux qui ont été qualifiés de nègres à chercher à l'extérieur de leur prison identitaire des raisons de fierté, soit en négrifiant physiquement l'Égypte pharaonique, en faisant par exemple des pharaons des Noirs, soit en annexant symboliquement des ancêtres non noirs, comme Platon par exemple, ou Saint-Augustin. En ce sens, toutes ces procédures sont le signe d'une véritable catastrophe intellectuelle, puisque, au lieu de raisonner en termes de réseaux traversant la culture et les civilisations, le repli identitaire sur la patrie africaine nécessite de séparer ce qui est noir de ce qui ne l'est pas. Il faut filtrer. Dès lors, les Africains se trouvent embarqués dans une croisade vouée à l'échec et au ressentiment, dans laquelle tous les Sarkozy et les Guénot de la Terre sont disposés à les maintenir. Restez authentique tout en entrant dans notre modernité. Tel, en effet, semble être le message, leur message. Mais surtout, abstenez-vous de penser que vous êtes vous-même des contemporains, nos contemporains, et que votre modernité vaut bien la nôtre. Conclusion, je crois que je n'ai pas dépassé les temps, là. Le retrait postcolonial, donc, c'est une façon de se retirer, eh bien, la face symétrique et inverse de l'exclusion paternaliste telle qu'elle est pratiquée par Nicolas